accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Recherche don du sang, désespérément, c'est ce cri d'alarme que lancent désormais de plus en plus régulièrement les hôpitaux et le ministère de la Santé bulgare. Les nombreuses campagnes d'information n'ont pour l'instant pas réussi à inverser la tendance. La pénurie est là et avec elle se développe un marché noir des donneurs de sang. C'est le reportage en Bulgarie de Damien Vodenicharov.
Difficile de prévoir quand on aura besoin de sang. Milan, comme la plupart des Bulgares, ne pensait pas devoir s'y confronter un jour. Il y a quelques mois, il a dû faire face à une réalité troublante, mais inconnue.
Mon père venait d'être admis d'urgence à l'hôpital. C'était une nuit, tard le soir. Après un certain temps, on nous a demandé à mon frère et moi de faire don de notre sang pour une transfusion totale. Je crois qu'ils avaient besoin d'une quinzaine de poches.
Une quantité énorme, impossible à fournir aussi rapidement quand on sait qu'une personne ne peut faire don que d'une poche tous les deux mois. Milan se voit donc contraint de trouver en urgence 15 volontaires. Lui-même et son frère ne peuvent pas participer. Ils ont des taux très élevés de plomb dans leur sang puisqu'ils sont ingénieurs métallurgistes. Il ne reste qu'une solution.
Je devais trouver un autre moyen, c'est-à-dire demander à mes amis de faire un don ou bien chercher des gens qui vendent leur sang. Mais on n'a trouvé personne.
À Pazardjik, la ville où le père de Milan s'est fait opérer, il est difficile de tomber sur ce genre de trafic. Le père de Milan a pu se rétablir, mais les réserves de l'hôpital sont tombées dans le rouge. Dans la capitale Sofia, ces vendeurs de sang à la sauvette sont partout, près des banques de sang ou devant les hôpitaux. Ils abordent même les gens pour proposer leurs services. On les retrouve dans un pavillon à la sortie du Centre National de Transfusion. Le prix est ouvert au marchandage.
Là, ce sont les gens qui nous proposent un prix. Il n'y a pas de prix fixe, ça dépend d'eux. Ça peut aller de 50 à 100 euros la poche.
Et pourquoi est-ce que vous le faites ?
Pour ne pas avoir faim, on n'a pas le choix. Pourquoi est-ce que les dirigeants ne viennent pas donner leur sang ? Ils sont riches, c'est pour ça. Borisov n'a qu'à venir ici.
Les proches des patients, ils ne viennent pas ?
Si, quand il y a besoin, ils viennent.
Donc vous êtes là en dernier recours ?
Oui, dans la plupart des cas, ce sont les proches qui donnent du sang.
À travers le pays, c'est le même cas de figure. Il y a des réserves pour les cas urgents, mais même les grands hôpitaux ne peuvent se permettre trop de transfusions sans garantie de récupérer de nouvelles poches de sang par la suite. Et plus l'opération est compliquée, plus les médecins ont besoin de sang, explique le docteur Milka Simova, qui travaille aux urgences de l'hôpital militaire de Sofia depuis 7 ans.
On peut assurer une transfusion ou deux, mais quand il faut intervenir plusieurs fois avec une perte de sang importante, ou quand le patient est anémique, on sait qu'on aura besoin de 4 ou 5 transfusions.
Il arrive même que des opérations chirurgicales soient reportées pour faire des économies de sang. Il ne s'agit pas de cas urgents, bien entendu, mais d'opérations planifiées et de patients suivis par des équipes spécialisées.
Lorsque l'équipe estime que c'est possible, elle peut remettre l'opération à plus tard pour avoir le temps de collecter la quantité de sang nécessaire. Opérer sans avoir de quoi transfuser est risqué. Si le patient est anémique, si on sait qu'il va perdre beaucoup de sang et si on peut attendre quelques jours, on le fait. Cette décision est prise après examen du patient. S'il est impossible d'attendre, on n'attend pas. Alors on compte sur les réserves.
Les médecins jouent les équilibristes face à un marché entièrement déstructuré. La crise remonte à la chute du communisme. Auparavant, les Bulgares avaient la quasi-obligation de faire un don. Aujourd'hui, ils sont libres et ils choisissent surtout de ne rien faire, explique le docteur Nikolai Andreev, directeur du Centre National de Transfusion.
En ce moment, seuls 25% des dons dans le pays proviennent de volontaires. On compte en fait sur les proches des patients pour les 75% restants. Ce ne devrait pas être le cas. L'Organisation mondiale de la santé estime que tous les dons dans le monde devraient être le fait de volontaires d'ici à 2020. Si un patient n'a pas de proche, qu'est-ce qu'on fait ? On ne l'admet pas à l'hôpital ?
Pour remédier à cette crise du sang, le centre de transfusion organise des campagnes nationales. Des laboratoires mobiles sont alors mis à disposition des gens dans les différentes villes du pays. Des spots avec des célébrités sont également diffusés sur les chaînes publiques. Les volontaires ont également droit à des jours de congé pour avoir fait don de leur sang. Malgré tout, la campagne qui s'est achevée en septembre est décevante. 170 personnes ont répondu à l'appel. Mais plus de 600 personnes par jour sont dans l'attente.
Една кампания на Националния център по трансфузионна хематология, Фибанк и Българска национална телевизия.
Les Russes sont de plus en plus nombreux à aller s'installer à l'étranger. Les chiffres de l'émigration ne laissent guère de place au doute puisqu'ils ont été multipliés par 10 entre 2009 et 2015. Pour en parler, on retrouve la correspondante de RFI à Moscou, Muriel Pomponne. Bonjour.
Bonjour.
On peut donc parler d'une tendance lourde, Muriel.
Et oui, les chiffres officiels indiquent qu'en 2009, 33 000 personnes ont quitté la Russie, alors qu'en 2015, c'est-à-dire l'année dernière, 350 000 personnes sont parties. Et d'après les experts du comité d'initiative civile, ils pourraient être en fait 3 à 4 fois plus nombreux, car les statistiques officielles ne prennent pas en compte ceux qui ont conservé une adresse en Russie. Et les chiffres des pays d'accueil sont donc beaucoup plus importants. L'émigration russe, il faut le rappeler, avait été très importante dans les années 90, les années d'instabilité économique et politique. Et puis le nombre de candidats au départ avait considérablement diminué entre 2007 et 2011. Et on est à nouveau dans une phase ascendante.
Et qui sont ces candidats au départ ?
Bien, ce sont avant tout des gens bien formés qui ont fait des études supérieures. En 2014, 42% des Russes partis s'installer au Canada avaient un niveau d'éducation supérieur. 38% de ceux qui avaient choisi les États-Unis et plus de 30% pour ceux qui sont installés en Israël ou en Allemagne. C'est donc une véritable fuite des cerveaux. Alors que parmi les immigrants, ceux qui viennent en Russie, seuls 14% ont effectué des études supérieures. Beaucoup de candidats au départ sont donc des jeunes, des gens originaires des grandes villes, des régions les plus riches ou des régions frontalières. Beaucoup de femmes aussi, ce qui s'explique par le taux de mortalité important chez les hommes. Et d'après cette étude, jusqu'à 23% des Russes aimeraient partir. Et en fait, c'est la réticence des pays d'accueil qui limite cette émigration. Les pays de prédilection, en quelques mots, sont l'Allemagne, les États-Unis et Israël. Mais désormais, les Russes partent aussi pour l'Australie, les pays de l'Asie-Pacifique ou même l'Amérique latine, et puis il y a un flux stable de partants pour la Grande-Bretagne, la Finlande et la France.
Et pourquoi émigrent-ils ?
Ils partent souvent à cause de l'insécurité personnelle et économique. Ils citent par exemple l'instabilité de la monnaie, le bas niveau des salaires, la corruption, le népotisme, mais aussi la mauvaise qualité des services publics de santé et d'éducation. Mais ils partent aussi à cause des risques politiques, les risques de persécution, l'absence de confiance dans les institutions, les forces de l'ordre ou le système judiciaire. Ils ont l'impression qu'ils ont épuisé ici les possibilités d'amélioration de leur niveau de vie. Nombre d'entre eux veulent en fait se créer ce qu'on appelle ici un aérodrome de secours, autrement dit une carte de résident ou un passeport étranger. C'est surtout une tendance chez les plus riches. Et avec les départs des capitaux, les entreprises partent aussi. En fait, c'est une immigration qui est inquiétante pour la Russie, car je vous le rappelle, la Russie est un pays sous-peuplé.
Merci Muriel Pomponne à Moscou. La crise en Grèce a fait émerger de nouveaux modèles, y compris dans les médias. La preuve avec ce journal des rédacteurs, un quotidien classé à gauche et qui va fêter sa 4e année d'existence. Avec à peine 10 000 lecteurs, sa viabilité financière est assurée. Charlotte Stevenard est allée rencontrer ses journalistes qui sont aussi actionnaires.
Il est 10h du soir au journal des rédacteurs. Comme dans les autres quotidiens grecs, la dernière conférence de rédaction a lieu tard. Les chefs de service ont enfin choisi la une sous l'œil de Nicolas Voulelis, le rédacteur en chef.
Quel titre ? Prêche obscurantiste.
Pourquoi vous avez choisi d'en faire la une ?
Parce que c'est plus important aujourd'hui, on n'a rien de mieux. Et c'est à propos d'un texte de l'archevêque, une déclaration de guerre à la gauche.
Pour Nicolas Voulelis, ce quotidien est une expérience unique en Grèce. Les propriétaires, ce sont les environ 150 salariés. Avant, la plupart travaillaient pour un autre quotidien, Eleftherotypia, la presse libre en français.
Ce journal a fermé en 2011 à la suite d'une faillite. Beaucoup de journalistes y travaillaient. Ils ont commencé à chercher ce qu'ils pourraient faire et ils se sont dit, eh bien, on va faire notre propre journal. C'est pour ça que ça s'appelle le journal des rédacteurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas de propriétaire, c'est nous. Tous les revenus qu'on tire de la vente ou de la publicité, c'est pour notre paye. Et si on ne fait pas de bénéfices, eh bien, on n'a pas de salaire. On s'est mis d'accord dès le premier jour que, quelle que soit l'ancienneté, 2, 12 ou 15 ans, on perçoit tous la même chose. Donc on gagne 1000 euros bruts, c'est-à-dire 800 euros nets.
C'est ça. Sauf Nicolas Voulelis lui-même, en réalité retraité. Il travaille bénévolement par intérêt pour le projet. En 2012, les autres rédacteurs, eux, ont accepté de renoncer à leurs deux premiers mois de salaire. Dans la salle principale, Dimitris Psaras, 63 ans, enquêteur chevronné. Il fait partie de ceux qui ont lancé l'idée du journal. Ce n'était pas facile selon lui car la Grèce n'a pas la culture des coopératives. Mais aujourd'hui, le journal profite de son indépendance pour toucher à tous les sujets.
Dans ce journal, chacun est libre de dire des choses complètement différentes. La plupart disent que le journal est proche de Syriza, du gouvernement, etc. Mais les choses les plus dures contre le gouvernement et Syriza, c'est dans notre journal qu'on peut les lire. Les caricatures du Premier ministre et des ministres, ce sont dans notre journal qu'elles sont les plus extrêmes.
Et selon Dimitris Psaras, même le fait de dépendre en partie de la publicité n'est pas un obstacle.
Je peux prendre par exemple l'histoire des mines d'or de Ralkiliki. Nous avons soutenu le combat des habitants opposés au plan d'extraction de l'entreprise, ou encore d'autres enjeux comme la contamination du golfe Saronique, non loin d'Athènes, par les raffineries de pétrole. L'entreprise qui possède les raffineries fait de la publicité dans notre journal. C'est sûr qu'il est difficile de publier ce genre d'informations, surtout quand il y a un risque que la publicité s'arrête, mais nous l'avons fait.
C'est cette indépendance qui a attiré Kostas Zafiropoulos qui travaillait pour la chaîne Mega, une des plus grosses télévisions privées du pays. Une chaîne où la liberté éditoriale a de sérieuses limites quand on sait que son principal actionnaire est Yorgos Bobolas, patron d'un empire dans le domaine de la construction. C'est un exemple de ce qu'on appelle en Grèce la diaploki, le triangle de dépendance entre le monde politique, les banques et les médias. Au journal des rédacteurs, Kostas Zafiropoulos apprécie aussi la concertation démocratique, même si ce n'est pas toujours facile pour ce trentenaire.
Nous sommes un journal où tu ne gagnes pas beaucoup, même si on te paye dans les temps. Mais c'est difficile de former une équipe avec tout le monde. Ce sont 130 personnes avec des points de vue très différents. La prise de décision peut être difficile. C'est pour ça que nous avons gardé le schéma hiérarchique habituel des journaux classiques.
Pas si classique cependant, ici les employés peuvent demander à changer de chef de service par vote. Ce journaliste de 35 ans explique aussi qu'ils sont mieux informés sur l'état économique du journal car leurs salaires en dépendent directement.
Nous savons ce qui se passe du point de vue économique car nous nous informons lors de l'Assemblée Générale qui a lieu tous les 1, 2 ou 3 mois et dans un rapport annuel sur l'état financier du journal. Donc nous contrôlons, nous aussi, selon notre niveau de connaissance, le directeur administratif et financier et la façon dont il gère le journal, où va l'argent, car cela nous concerne.
La première année a été difficile, mais désormais le journal a un lectorat petit mais stable et de la publicité. Cela lui permet de s'en sortir tout juste, mais sans s'endetter.
Les espions ne sont plus ce qu'ils étaient. Le centre de renseignement de l'armée de terre a ouvert ses portes cet été à Strasbourg et il recrute des profils de plus en plus atypiques et pointus en géopolitique, en informatique ou en langue rare. Reportage au sein de cette école signé Corinne Fugler.
L'armée de terre veut réunir dans une même unité des experts militaires venus de toute la France. Elle va aussi recruter une centaine de spécialistes qualifiés en informatique, en géopolitique ou en langue rare pour traiter l'information recueillie. Le général Éric Maury, commandant du renseignement.
Celui qui va faire de l'entretien de sources humaines, évidemment, n'aura pas forcément le même profil que celui qui va faire de la cartographie. Donc c'est un travail à la fois de spécialiste du recrutement et un travail qui nous regarde aussi pour bien définir chacun de nos profils. Et on recrute là où on peut en fonction des spécialités. Parfois des gens de très haut niveau, par exemple ceux qui s'occupent d'analyse du signal, de traitement et d'analyse du signal. Parfois des gens de moins bon niveau, mais qui sont tout aussi indispensables à nos opérations pour d'autres spécialités peut-être un peu moins pointues.
C'est-à-dire sur ces terrains africains, par exemple, le défi est linguistique aussi.
Le défi est linguistique, effectivement, parce qu'on a besoin d'avoir des spécialistes des dialectes qui sont parlés sur le théâtre africain.
Ce nouveau centre sera à la fois une école du renseignement pour former de futurs experts et un prestataire de services pour les opérations extérieures de l'armée de terre. Il fournira à la demande des équipes préparées à ces terrains.
On fait du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va développer un module, par exemple, de guerre électronique, d'appui électronique au profit d'un commandant fort particulier. Et les gens que j'envoie en bande sahélo-saharienne ne sont pas forcément les mêmes que ceux que j'ai envoyés tout récemment, par exemple en République centrafricaine. À chaque fois, le module est sur-mesure en fonction du besoin du commandant de la force et donc du théâtre.
L'opération Barkhane ou encore la lutte contre Daesh requiert, vous l'avez compris, des compétences assez particulières. L'armée est donc à la recherche de profils atypiques. C'est le colonel Jean-Charles Renaudin qui coordonne les parcours de formation.
Aujourd'hui, le domaine du renseignement et les moyens utilisés par les différentes cibles que l'on suit ou les différents théâtres d'opérations que l'on surveille nécessitent des compétences dans une multitude de techniques. Et nos équipements également évoluent sans cesse. Donc il faut sans cesse s'adapter, avoir des gens qui ont cette agilité intellectuel pour pouvoir s'adapter au théâtre. Mais j'insiste aussi, il faut aussi une compétence militaire, opérationnelle, tactique, parce qu'il faut aussi travailler en appui de nos forces, pouvoir les suivre, s'intégrer dans des dispositifs tactiques et être opérationnel également.
Droit à droite.
Ce centre du renseignement emploie pour le moment une trentaine de personnes. À terme, en 2018, il en comptera 200.
Droit à droite. On passe roquette. Engagé.
C'est une île de la mer Tyrrhénienne, volcanique, aujourd'hui lieu de villégiature pour les Romains. Mais l'île italienne de Ventotene est d'abord un symbole européen. C'est là que furent enfermés les opposants au fascisme, dont Altiero Spinelli, un des pères de l'Europe. Une île prison qui n'a pas fini de faire parler d'elle, Mathilde Villain.
Déjà à l'époque romaine, Néron envoyait sa femme sur l'île de Ventotene, pas pour des vacances à la plage, bien que la géographie de l'îlot au large des côtes entre Rome et Naples soit propice à l'osium. Non, l'empereur y envoyait son épouse qu'il venait de répudier, tout simplement pour s'en débarrasser. L'île de Ventotene avait donc déjà une longue tradition d'île d'exil avant que Mussolini n'y envoie les opposants à son régime fasciste. Entre 1941 et 1943, le Duce y expédia en confinement tous ceux qu'il voulait éloigner pour les faire taire. Et pour être certain qu'ils ne s'échappent pas, ceux-ci furent confinés sur une autre île, à 2 km au large de Ventotene, l'île de Santo Stefano. Et c'est sur cette île-prison que germa le premier manifeste fondateur du fédéralisme européen sous la plume d'un des pères de l'Europe, Altiero Spinelli. Déporté sur l'île entre 1939 et 1943, le jeune militant antifasciste y rédigea le manifeste pour une Europe libre et unie sur des feuilles de papier à cigarette. Aujourd'hui, cette prison, lieu symbolique de l'histoire de la construction européenne, menace de s'effondrer. Alors l'occasion était toute trouvée pour Matteo Renzi de s'afficher en reconstructeur, lui qui cherche à redonner à l'Italie sa place parmi les pays moteurs du projet européen. Fin août, il a invité Angela Merkel et François Hollande à Ventotene pour parler du futur de l'Europe après le Brexit. Et l'ambitieux Premier ministre italien a également débloqué 80 millions d'euros afin de réhabiliter la prison en ruine. Il veut en faire un campus pour les élites européennes de demain.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission. Accent d'Europe, à demain.